Bon, le groupe qui a résisté, qui est encore ici. Donc, nous avons demandé à Dan Wery de nous parler au mot de la fin. Lui, il est professeur et titulaire d'une chaire de recherche industrielle du CRNSNG, Programme de bien-être animal, Faculté des systèmes de terre et de nourriture, Université de la Colombie-Britannique. Donc, il parle de toute cette diversité. Il va parler de la place du CNSAE dans le contexte canadien et international. Merci, Dan.
Good afternoon, everybody.
Bonjour à tous. Merci, Susan et Jackie, et le conseil d'administration du CNSAE. Quel plaisir de travailler avec un tel groupe. Je suis très fière de l'équipe du début et je suis un réfugié de l'ancien processus des experts. Bon, j'ai qu'une seule diapo, mais je vais y revenir. Mais pour commencer, c'est notre salle de café et la photo à gauche, c'est notre équipe. Vous voyez, les montagnes en Colombie-Britannique sont bien plus belles que celles de l'Alberta et c'est un bon endroit que pour les vaches laitières. Et vous voyez les membres de notre équipe, les chercheurs, le personnel à la ferme et Nelson qui dirige notre ferme qui est incroyable. Bon, l'historique maintenant. Je crois qu'il est important pour ceux d'entre vous. J'ai l'impression d'être un vieux. Je me regarde dans le miroir. Je me vois comme jeune, mais j'ai eu 50 ans cette année. Oh là là. Et pour certains d'entre vous, avec qui je travaille depuis longtemps, d'autres sont nouveaux dans le jeu. Et je pensais parler de nos débuts pour qu'on puisse reconnaître le chemin parcouru. Si vous pensez avant 2005, avant la mise sur pied du Conseil national, nous avions un comité qui existait. Et c'était un groupe moribond et il a été euthanasié lorsque le gouvernement fédéral a retiré le financement. Et si nous avions le pistolet Zephyr à l'époque, ça aurait dû se faire. C'était une bonne chose, mais c'était une période incroyable à l'époque. Bien qu'on s'est rendu compte que le comité de spécialistes ne vivait pas son plein potentiel, on ne savait pas ce qui ressortirait des cendres. Et c'est incroyable, en fait, que le Conseil national soit ressorti de ses cendres. C'est remarquable. Bon, maintenant, pour l'historique, moi, j'ai commencé en bien-être lorsque David Fraser m'a invité à se joindre à son groupe à la ferme expérimentale centrale ici à Ottawa. J'ai commencé par la castration des porcelets et j'étais contente de voir qu'on a parlé de cette question aujourd'hui. Mais je suis ensuite allée à l'Université de la Colombie-Britannique. Nous avons un groupe formidable. Je suis fière d'être là. Je travaille surtout avec l'industrie laitière. L'industrie laitière a été très généreuse et ils m'ont acceptée. Et surtout pour soutenir la recherche du côté laitier. Maintenant, pour ces historiques, je veux reconnaître la démarche. Il y a eu de bonnes discussions aujourd'hui sur notre avenir et je veux revenir à certaines de ces orientations futures, mais je veux célébrer ce qui s'est passé pour ce qui est du processus de développement du code, cette idée de créer une séparation entre un comité scientifique qui met au point une série de recommandations et éclairées par les scientifiques avec une discussion bien ouverte avec le comité des codes pour mettre au point une liste de questions clés. Mais le comité scientifique peut faire son travail sans faire de compromis. Et développer le rapport qui va au comité des codes. Et le président et moi-même, nous faisions partie du processus sur le développement du code laitier et nous pouvions participer dans le comité plus large. Les scientifiques, c'est un vote. Ils ont le rapport et l'examen, mais c'est eux qui prennent toutes les décisions sur la science. Et pour moi, cela a fait en sorte que la question était claire et transparente et qu'on prenait le fait d'utiliser la science ou s'il y a d'autres enjeux, tout est fait de façon ouverte et transparente. Et je crois que ça, c'est un dénouement exceptionnel. 22 ans. C'est l'âge de certains des codes. Ryder le disait hier. C'est incroyable d'être ici aujourd'hui et de parler de cet effort sans précédent, cet effort gigantesque pour développer tous ces codes sur une très petite période de temps. Et il fallait les refaire, ces codes. Et c'était une période très courte. Et je vais y revenir. Le fait et qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup dont nous pouvons être fiers et satisfaits pour ce qui est de cette démarche et de ce merveilleuse série de codes que nous pouvons montrer au monde entier. Ce processus de développement du code, c'est une assise solide. Et Gord l'a dit dans ses commentaires hier, on l'a répété à plusieurs reprises, Gord a parlé d'un avantage canadien. Dans le processus du code, on a pu rassembler les gens, voir à ce qu'ils travaillent par consensus, même si c'est difficile et même si nous ne sommes pas souvent d'accord, nous avons réussi à faire tout cela. Et ça fait partie de notre réussite. Aussi, on n'y est pas encore arrivé, mais ce qui est important, la conversation s'est beaucoup développée. Le modèle d'évaluation, on a travaillé à cette question. Et même il y a quelques années, dans cette salle, les gens n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Mais cette année, j'ai l'impression que cette conversation a évolué et bien sûr la base de connaissances que nous avons davantage d'expérience, nous avons fait des essais et je crois qu'on a une meilleure idée où on peut se diriger en matière d'évaluation du bien-être animal. Bon, nous avons eu une discussion aride sur l'avenir du Conseil national. Bon, moi, je vois que nous avons eu de belles réalisations et je vois que depuis que j'ai participé, il y a eu toutes sortes de réussites et de savoir qu'il y a un petit contrat qui sous-tend tout cela. C'est un peu effrayant et c'est bien d'entendre le soutien autour de la salle pour le Conseil national et ce message doit aller en dehors de cette salle. C'est peut-être un défi pour nous tous alors que nous retournons dans nos établissements et nos provinces. Un autre commentaire qui était important, c'était de dire et moi, je suis toujours optimiste. Je crois que ce travail est tellement essentiel. Nos antécédents au Conseil national sont très impressionnants. Ce n'est pas une question de savoir si on doit continuer. On doit absolument continuer. Mais je crois qu'on devrait le dire plus fort et plus haut. Bon, que faisons-nous à partir de maintenant? Disons que le Conseil national continue à exister. Quels seront nos défis? Eh bien, j'espère que nous n'aurons pas 8 nouveaux codes de pratique, bien qu'il y aura évidemment une démarche de mise à jour, de révision des codes. alors que la science évolue et que la culture change dans l'industrie et dans la société dans laquelle nous vivons. Et ça, c'est une bonne chose et ça doit se faire. En outre, il y a certains points qui ont été exprimés aujourd'hui, d'autres non, même si nous devons être très fiers de la démarche du Conseil national entourant les codes, on doit réenvisager le processus. Et on doit, d'une part, et je m'excuse que je reviens en arrière encore sur cet avantage canadien sur le travail par consensus, mais il y a des problèmes dans ce modèle. Et peut-être qu'on a dit aujourd'hui, on l'a entendu, on a besoin d'autres intervenants. On doit élargir les joueurs autour de la table et le nombre de joueurs. Et on doit mieux consulter la vaste communauté. Et ça veut dire que celle qui est dans le secteur agricole et aussi les citoyens de notre pays. Donc, comme scientifique, et je suis coupable, j'ai regardé le code laitier. Je suis co-président. On a ce groupe de scientifiques qui se réunit. On fait des rédactions d'un manuscrit qui peut être publié et ensuite on l'envoie à un processus d'examen par les pairs. C'est l'assurance de la qualité par un tierce partie et c'est ce qui donne cet ingrédient spécial de reconnaissance et de valeur. Et je comprends ce processus n'est pas allé au niveau où il devrait l'être. J'aimerais, dans l'avenir, voir où on forme un comité scientifique 2 ans avant celui du code. Et il y a examen par les pairs, il y a publication auparavant. Et ensuite, le comité du code peut venir et ils ont une version récente des faits et ils peuvent continuer leur travail. Je crois que ça va rehausser la barre en matière de science au prochain niveau. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, nous avons parlé de reddition de comptes et c'est très apprécié. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Et j'ai bien apprécié la discussion. On doit prêter attention à cela. On devrait célébrer le travail incroyable qui a été accompli dans les codes pour ce qui est d'avoir des points de vue variés autour de la table et d'avoir eu des consultations. Même si tout cela était beau en 2005, ce n'est peut-être pas la fine pointe en 2013. Et j'ai entendu certaines remarques aujourd'hui qui m'ont laissé une bonne impression. Et la consultation publique qu'on entreprend maintenant est peut-être un peu faible, alors que nous aurons une ébauche du code et lorsqu'on demande aux gens ce qu'ils en pensent, c'est comme Stéphanie l'a dit, on consulte le public une fois qu'une décision a déjà été prise. C'est l'impression peut-être qu'on a. Aussi, j'ai entendu la remarque d'aller dans la consultation avec l'idée de persuader ou de convaincre les gens. Nos activités sont ceux d'éducation du public ou d'éducation des producteurs. Et si ils ne veulent pas partager ces connaissances, c'était bien d'entendre ça clairement aujourd'hui lorsqu'on pense à la prochaine consultation publique. Il faut créer une culture d'ouverture, d'inclusivité, de fournir voix au chapitre à ceux qui estiment que les décisions que nous prenons vont avoir des conséquences sur leur vie. Je sais que ce ne sera pas facile, mais c'est ce qu'il faut faire. Je veux revenir à l'aspect évaluation du bien-être animal. Nous en avons parlé hier et aujourd'hui, et Jeff vient juste de dire, ça ne suffit pas de dire qu'on le fait, il faut le démontrer. Et je crois que nous sommes tous d'accord en ce qui a trait à cette démonstration. Je veux féliciter l'industrie laitière pour le processus ECAF. C'est important à reconnaître que nous nous habituons à vivre dans un certain système. Mais pour ce qui est des autres dans le monde, ils sont assez perplexes. On essaye d'expliquer ce que nous faisons en matière de bien-être animal. Et on dit à Terre-Neuve, il y a telle pratique. Et lorsqu'on parle de ce qui se passe au Nouveau-Brunswick, on les a perdus. Alors, nous avons un système à un niveau national. Nous avons les filières de production qui font des évaluations à chaque ferme, qui fournit des évaluations à un système. Bon, ça, c'est une façon de travailler au Canada. Comme chercheur, j'ai des idées derrière la tête et ceci nous donne de bonnes données et cette possibilité de parler des points de repère. Je vais revenir. Prochaines étapes, je m'excuse auprès des organisateurs. C'est bien d'avoir le micro pour la dernière séance de la conférence. Donc, ce sont mes idées à haute voix. Et je veux essayer d'inciter la pensée chez vous. Et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu aujourd'hui. Vous êtes dans une salle où les valeurs sont partagées, mais il y a certaines choses qui me disent qu'on reste toujours pris dans les mêmes pièges. Et un de ces pièges, c'est qu'on prétend que les questions d'évaluation du bien-être, un système est mieux qu'un autre, le oui ou le non dont Jeff parlait plus tôt. Je ne crois pas. En fait, on peut améliorer le bien-être animal, on peut faire beaucoup de choses, et dans le même système qui est dans la zone gagnant-gagnant, où on peut faire quelque chose de mieux pour les animaux, ça va faciliter la vie aux producteurs. Et ce que Ed a montré, il y a une personne plutôt que trois qui donne une injection, par exemple. Ce sont les choses qui vont de soi. Et il faut quand même faire la recherche pour démontrer que ça fonctionne. Et pour avoir ce mentorat, apprendre des autres à l'intérieur d'un système qui existe pour montrer ce qui réussit et ce qui ne réussit pas. Donc, d'aller vers les choses qui sont les plus évidentes, les choses les plus pratiques, comme l'exemple d'euthanasie qu'on a vu et de décornage. Est-ce qu'on peut apprendre de toutes ces données lorsqu'on visite plusieurs fermes? Et nous avons fait ce travail à des fermes laitières récemment. Et ce qui est agréable, on a fait du travail expérimental. On fait notre recherche dans notre ferme isolée. Et ensuite, comment est-ce que ça s'applique à une autre ferme? Et si on travaille ou on va visiter ces fermes, on commence à mieux comprendre leurs défis et quelles sont les exceptions. Pas seulement les défis, mais les trucs qu'ils ont qu'on ne voit pas ailleurs. Ce qu'on a vu récemment pour la boiterie, par exemple les lésions du jarret. Lorsqu'on visite des centaines de fermes, on veut voir à la ferme où il y a zéro lésion des jarrets. Et dans d'autres, Chaque vache a une lésion. Et ce sont des fermes qui sont dans la même province, le même élevage, type d'élevage, les mêmes contraintes économiques, les mêmes logements. Et on voit qu'il y a toute une occasion à saisir devant nous pour apporter des grandes différences qui sont importantes pour les animaux et qui améliorent la vie des agriculteurs. Et non seulement est-ce que c'est agréable du point de vue de la science, mais c'est incroyable de travailler auprès des producteurs. Et il y a des scientifiques qui leur redonnent des données qu'ils peuvent utiliser pour prendre de meilleures décisions sur la façon dont ils veulent gérer leur ferme. Donc on voit où ils en sont par rapport à la confidentialité et par rapport à leurs voisins. Et s'ils ne sont pas heureux de cela, ils peuvent essayer d'autres options. Donc, la recherche peut nous retenir aussi. Je ne veux pas revenir à l'ancien comité des spécialistes, mais ce qui était positif, c'est que ce comité a essayé de coordonner, de planifier le potentiel de recherche. Et ça a été une année qui nous a remis les pieds sur terre. Agriculture au Canada n'est plus dans le jeu. Nous avons perdu certains de nos grands chercheurs canadiens et on a la question qui assume la responsabilité maintenant. Alors, j'ai parlé de mes débuts. Oui, j'ai travaillé sur la castration des porcelets et ces Européens qui ont des beau site web là-dessus, eh bien, je dois vous dire, il y a 20 ans, on n'était pas intéressé par la question de la castration des porcelets. Et lorsqu'on parlait avec un membre, un représentant de l'industrie porcine, où nous avons eu beaucoup de soutien, mais on se demandait à quel moment on allait faire du travail pratique. Et c'est totalement normal. Et l'industrie aura souvent des objectifs à court terme et ça fait partie du défi pour mettre au point un portefeuille d'orientation et savoir comme pays vers où on se dirige. Tim nous a parlé de Wayne Gretzky. Il patine vers où la rondelle va se retrouver et pas où elle est. Et parfois, on peut se tromper. Et même si on ne se trompe pas, ça prend beaucoup de temps avant que quelqu'un ne le reconnaisse. Donc, comment convaincre un bailleur de fonds, des industries qui disent oh, on doit investir ici plutôt que là. Et si ça rapporte, ça peut rapporter gros. Je ne connais pas la réponse à cela, mais c'est une préoccupation pour ce qui est de la coordination de la recherche. J'aimerais savoir qui va assumer le rôle de leadership. Peut-être que les provinces et le fédéral pourraient mieux s'entendre là-dessus. Et quel meilleur exemple d'aide qui parlait d'édition des gènes pour le décornage. Et il y a toutes sortes de choses qui s'en viennent et où est-ce que cela mènera? On doit mettre l'accent sur le bien-être animal comme étant une opportunité, une possibilité, et éviter de parler d'une menace. Nous avons entendu plein de bonnes présentations ce matin qui nous ont rappelé que dès que nous avons de la crainte ou de la peur dans un débat, le cerveau arrête, gèle. Et ce n'est pas une bonne façon de progresser sur ces enjeux majeurs si immédiatement nous essayons de parler de menaces associées au bien-être animal. Oui, les producteurs ont peur. Et nous avons tous peur de perdre le contrôle. de voir est-ce que les gens vont prendre des décisions à notre place. Mais on voit que ça enlève l'énergie de la salle. Et comment est-ce que je peux améliorer mes pratiques de sorte à ce que ça va améliorer ma rentabilité, ma qualité de vie, la façon dont je traite mes animaux. Je vais vous donner un exemple. Et j'estime que l'énergie positive, les Sud-Américains, nous nous inquiétons parfois de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Nous avons vu des projets en Chine et en Amérique latine, au Chili et au Brésil. Je suis allée à une réunion il y a quelques mois dans une petite ville au milieu de nulle part. Rencontre laitière sur le bien-être. 500 animaux, 500 personnes étaient producteurs et étaient là pour parler du bien-être animal. Et il fallait que ça soit traduit vers le portugais parce que c'était un Britannique. Et les gens étaient là. Ils étaient là pour voir quelles étaient les nouveautés, pour voir s'ils pouvaient avoir de l'information pour mieux s'en sortir. Parce que pour eux, c'est d'améliorer leurs possibilités. Et pour moi, ça, c'est la passion et ça me amène à penser aux Brésiliens. Une autre question, et j'aimerais peut-être terminer là-dessus. Cette idée de faire un meilleur boulot pour articuler nos valeurs. Fred l'a dit hier lorsqu'il a parlé de la dynamique autour de la table. Eh bien, il a dit que les agriculteurs pouvaient être taciturnes. Ils ne sont peut-être pas les plus vocaux. Ce ne seront pas ceux qui voudront commencer à parler des valeurs essentielles. Et qu'est-ce qui est important pour ce qui est de la façon dont j'exerce mon métier? Quel type d'exploitation est-ce que je vais laisser à mes enfants et mes petits-enfants? Ce sont des conversations difficiles. Mais pour ce qui est des messages d'aujourd'hui et en général, j'ai l'impression que, alors que je travaille dans ce milieu du bien-être animal, on doit mieux s'en tirer de parler de ces valeurs partagées dans l'industrie. Et ces valeurs partagées, j'espère, vont inclure des aspects sur le bien-être animal, mais vont inclure toutes sortes d'autres aspects, des aspects environnementaux. Il faudra trouver des façons créatives de combiner ces éléments. Et les producteurs laitiers essayent d'inclure les composantes non seulement du bien-être, mais de l'environnement aussi. Jeff Spooner nous a parlé des efforts pour engager les conversations. Eugene a parlé des discussions multigénérationnelles autour de la table pour faire ressortir ces valeurs de base. Mais il faut aller au prochain niveau pour créer des réunions beaucoup plus vastes où nous partageons nos valeurs dans l'industrie, mais nous parlons à nos voisins, à d'autres personnes dans nos communautés, de ce que cela veut dire l'agriculture et comment on peut incorporer ces valeurs que nous avons et en parler dans nos messages. Pour revenir à la ferme, notre ferme est toujours ouverte. Nous avons des milliers de visiteurs dans l'année. Nous avons des portes ouvertes et des visites libres. Et les étudiants aiment parler à ceux qui viennent, des gens de régions rurales, des gens des villes. Nous leur parlons de nos vaches et de nos pratiques. Nous en apprenons autant d'eux qu'eux apprennent de nous. J'ai la photo de notre salle de café pour une raison particulière et pas seulement pour la photo de notre équipe, mais il y a des trophées. Et il y a des trophées partout le long du mur, et ça, c'est formidable. On voit qu'on a une ferme extraordinaire, ce qui est vrai, et que nos pères nous reconnaissent. Ça aussi, c'est vrai. Mais ça indique que pour nous, ce que c'est l'agriculture, c'est pas uniquement une question d'argent. On reconnaît les bienfaits de ce que nous faisons. Et une chose intéressante du côté laitier, c'est que beaucoup de ces prix sont liés à la production.
Mais les gens qui ont les gros prix, ce n'est pas ceux qui gagnent le plus d'argent. Ce n'est pas forcément eux. Ce que nous faisons dans l'agriculture ne sont pas toujours liés à la maximisation des profits. Il s'agit aussi d'un sens. Je veux trouver le mot juste. Il s'agit de maximiser. Il s'agit de la fierté de sa pratique. Et la dernière chose que je voudrais dire en ce sens, c'est de vous demander qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette idée de la fierté de la pratique. On a gagné un prix, ça me fait rire un peu. Le plus de matière grasse dans le lait, dans les vaches de 2 ans, j'en suis fier aussi, mais on revient aux valeurs fondamentales. C'est une valeur, mais ce n'est pas une valeur centrale. Et ce que je voudrais voir, c'est plus de prix liés, le taux de boîterie le plus bas du comté Kent, et je pense qu'on gagnerait. Et c'est quelque chose qui est très pratico-pratique qu'on peut faire dans le terrain, dans les industries. On peut commencer à reconnaître ces choses importantes que nous faisons. Et ça nous aiderait à avoir ce dialogue. Si quelqu'un gagnait un prix pour le taux le plus bas de boîterie, cette personne devrait être en train de faire des conférences avec les agriculteurs. Je veux remercier les organisateurs de cette occasion de faire ce travail et d'avoir le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Je suis sûr que vous avez profité de tout de la camaraderie. Vous avez donné un but à tout ça. Il faut remplir les formulaires d'évaluation et bon voyage chez vous. Et j'espère que votre action de grâce sera très agréable. Merci beaucoup.